RMC.
Inbounds the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win.
Bang! Arnaud Valadon.
Salut à tous, bienvenue dans Basket Time, numéro 120, un épisode consacré aux Boston Celtics, leader de la conférence Est et leader de la NBA tout court. Les Celtics peuvent-ils être champions en misant tout sur l'attaque? Les Celtics qui étaient en finale la saison dernière face aux Warriors. Le casting de cette semaine, et bien pour une spéciale Boston, il fallait quelqu'un qui connaît le club de l'intérieur via son meilleur ami depuis tant d'années. Cet ami s'appelle Kevin Garnett. Et nous avons Frédéric Weiss. Salut Fred.
Salut.
T'as des nouvelles de Kevin régulièrement?
Ouais, hein. Bien sûr, on s'adore, on s'envoie des messages tout le temps, c'est cool.
Une histoire d'amour qui a débuté en 2000.
Exactement. Et elle perdure hein, vraiment dans le temps, c'est vraiment très agréable.
Oui, toujours des SMS en contact, évidemment.
Bien sûr.
Lui aussi était considéré comme le White Mamba de la LNB, notre Brian Scalabrine français, Stephen Brun.
Salut Arnaud, salut tout le monde.
Pas trop vexant, ça va, c'était un bon joueur.
Ça ne dérange pas, Brian Scalabrini, belle petite carrière NBA.
C'est ça.
Champion, oui, évidemment, avec Boston. Et aujourd'hui, il donne ses analyses à la télé de Boston.
Plutôt pertinente.
D'où la comparaison.
Oui.
Et enfin, un rookie avec nous, c'est un peu notre Jedaria Devante Davidson, le seul rookie des Celtics. Lui aussi est en two-way contract RMC Sport Twitch, c'est Sacha Alix. Salut Sacha.
Salut. J'espère valider mon contrat et pouvoir le prolonger.
Mais tu confirmes le two-way?
Oui, tout à fait. Angélique, sinon c'est pas grave.
Bon, ça va, on va se développer tranquillement.
C'est un bon petit championnat.
Oui. C'est pas du tout égoïste comme jeu.
Notre premier débat va se concentrer sur le début de saison des Celtics. On va également parler de Jaylen Brown et Jason Tatum, les deux stars qui finalement semblent enfin jouer ensemble. On s'était posé beaucoup de questions la saison dernière. Est-ce que c'est le meilleur duo de NBA aujourd'hui, si tant est qu'on peut encore sortir des duos dans cette NBA moderne en 2022? Messieurs, après pour la partie historique, vous allez nous donner votre 5 all-time des Celtics. Alors là, il y a du boulot, hein. Là, je peux dire qu'il y a des choix peut-être un peu cornéliens à faire parce que les grands noms sont là à l'appel, mais... Franchement, de mon avis, il y en a un qui doit y être dans tous vos 5.
Ah oui, c'est qui?
Oui.
Un triple MVP de suite?
Je vois pas.
Moi non plus.
Vous voyez pas? Bon, je vous le dirai tout à l'heure.
Jérôme Moïseau?
Ouais. Et le quiz spécial Boston, mais pas que. On essaiera de faire un lien entre Boston et notre basket français. Voilà.
Très bien.
Difficulté.
Gershon Yabusele, donc.
3 sur 5.
Voilà.
Allez, c'est parti, messieurs, pour Basket Time spécial Boston Celtics.
They just keep going downhill and playing quick like that. Jaylen Brown rested to the cup.
Marcus to two. Over the top of the Cornette, kicks to the corner, Williams for three. Got it.
Jeez. Oh, there we go. Nice pass. That's a great pass by Williams.
Perfect.
Oh, nicely done.
Hauser.
Yeah, just like that.
It's a great pass.
Les Boston sont leaders de la NBA, 17-4 le bilan au moment où on enregistre cette émission, sachant qu'ils avaient commencé à 4 victoires, 3 défaites. Les hommes de Joe Mazzulla, qui remplace Ime Udoka, mis à l'écart pour une affaire de violation des politiques de l'équipe.
Adultère donc.
Adultère, bon, mais
même un peu plus,
on parle d'un peu plus. C'est pour ça que je m'en tiens au communiqué officiel des Celtics, qui a écarté pour la saison Ime Udoka. Et ça va quand même bien pour ces Celtics. Je le dis, ils étaient finalistes en titre. Meilleure attaque de la NBA, c'est peut-être ça qui change, parce qu'ils ont augmenté leur production offensive, Sacha.
Ouais, c'est ça. Ils marquent 121,3 points par match et ils en encaissent 112. Donc c'est un ratio, ils sont à plus 8 sur chaque match, c'est-à-dire qu'ils ont des victoires où ils ont de la marge à chaque fois, ils mettent de très très gros écarts. C'est la meilleure équipe au nombre de 3 points marqués, au pourcentage à 3 points. Donc là, pour le coup, il y a vraiment quelque chose qui se dégage autour de ça.
Plus de 40%, hein. Plus de 40%, c'est quand même assez fantastique.
Et il faut rappeler aussi qu'ils font ça avec énormément d'absents, puisqu'il n'y a pas l'encre défensive qui est Robert Williams, alors Ford qui est absent sur quelques matchs, Jaylen Brown qui a été malade récemment. Donc franchement, c'est assez étonnant de voir ce collectif s'éclater, surtout derrière la ligne à 3 points.
On peut rajouter Gallinari qui manque dans la rotation, même si il n'a pas encore joué 2 minutes avec les Celtics. Stephen, oui. Surpris de voir ces Celtics produire aussi bien offensivement. Est-ce que c'est que passager?
Je pense que
ils ont appris des finales NBA l'année dernière, parce qu'on se rappelle que sur les trois derniers matchs des finales, c'est catastrophique offensivement, c'est à peine 100 points marqués. Là, ils seraient dans les bas-fonds de la ligue s'ils tenaient le même ratio offensif que sur la fin des finales NBA. Après, ils se sont un petit peu réinventés parce que Sacha l'a dit, l'absence de Robert Williams, qui est pour moi le maillon essentiel à l'intérieur défensivement, n'est pas là, donc ils ont dû trouver d'autres choses. Ils n'ont plus que Marcus Smart comme vrai stoppeur défensif sur les postes extérieurs. Voilà, et puis Joe Mazzulla a fait évoluer ce jeu, c'est-à-dire qu'il y a énormément de shooters autour du duo Jalen Brown, Jason Tatum, qui eux ont aussi, je pense, changé leur jeu, parce que les minutes de Jalen Brown et Jason Tatum, elles sont pas, y a pas une grande différence par rapport à la saison dernière. Le volume de tir, y a pas une grande différence. C'est surtout l'efficacité qui est exceptionnelle, parce que cette équipe de Boston, elle joue avec un pace relativement bas. C'est le 18e pace de la ligue. C'est à peine 100 possessions par match. Ça veut dire qu'il y a une efficacité exceptionnelle. Fred l'a dit, 40% à 3 points sur un gros volume. Forcément que ça fait monter les chiffres. Mais le vrai apport offensif de cette équipe, c'est Malcolm Brogdon en sortie de banc, qui est un garçon qui est quasiment à 14 points de moyenne, qui joue que 23 minutes, forcément ça fait gonfler les stats.
Mais tu parlais des pourcentages de réussite à 3 points, lui il est presque à 47% à 3 points, donc forcément il t'écarte le jeu d'une façon incroyable.
Et quand les deux percutent, il y a forcément un mec qui est tout seul. Alors Ford est aussi à 40%, et un garçon comme Derrick White qui est peiné l'année dernière, qui a été pris pour ses qualités défensives et qui était à peine à 30% sur le tir longue distance, cette année il a 43%, donc tout ça mis bout à bout fait que tu pètes les chiffres offensifs, et on reviendra tout à l'heure sur le talk 2 sur le travail de Jalen Brown et Jason Tatum, mais cette équipe-là, elle est portée par l'offensive, mais le retour de Robert Williams, je pense, va un petit peu changer la donne, notamment du côté offensif. Du côté défensif, pardon.
Sur Brogdon, la greffe a pris. C'est vrai qu'au début, peut-être pas évident d'arriver, ça a été le principal mouvement de l'intersaison pour les Celtics, de faire venir le joueur pour apporter ce plus en sortie de banc. Je me souviens des débats qu'on avait eus pendant les finales NBA et en conclusion de ces finales, en disant qu'il manquait peut-être de quelqu'un sur la deuxième unit pour booster cette équipe des Celtics.
Ouais, je pense que quand il a été signé, tout le monde était content du côté de Boston, justement, parce que ça manquait un petit peu de points. Et c'est vrai que l'apport qu'il peut avoir avec les pourcentages très élevés, c'est hyper intéressant. Encore une fois, il peut écarter le jeu avec un pourcentage à 3 points assez incroyable. Mais je rejoins Stephen. En fait, je pense que c'est une équipe caméléon qui est capable, comme en ce moment, ils voient le cercle comme une bassine. Et bien, ils vont arroser, ils vont shooter, etc. Sauf que l'ADN de cette équipe, elle est quand même défensive. Et quand Robert Williams va revenir, je pense qu'ils vont jouer encore moins de possession, peut-être, mais en tous les cas, ils vont être beaucoup plus efficace défensivement, parce que ce joueur-là, c'est vraiment la clé de voûte défensive de cette équipe.
Il n'y a plus de dissuasion quand il n'est plus là.
Exactement, ça change tout. Donc, ils sont adaptés. C'est pour ça que j'appelle cette équipe une équipe caméléon, parce qu'elle est capable vraiment de s'adapter à ce qu'on leur propose, mais surtout à ce qu'eux ont en stock. Comme tu le disais, il y a des joueurs qui ont été absents, et malgré ça, ça continue à bien tourner. Offensivement, ça a été incroyable. Bah, le dernier match, ils mettent 140 points, il n'y a pas Jalen Brown. Donc tu te dis que les mecs, ils ont vraiment cette capacité de trouver des solutions, de marquer des points et d'être hyper efficaces, parce qu'en ce moment, ils voient le cercle comme une bassine, mais qu'ils sauront s'adapter.
Donc Sacha, quand on regarde ce qu'on appelle les ratings, donc voilà, les ratios offensifs, ratios défensifs, bon, évidemment en première attaque, là tout va bien, et en défense, ils sont 17e de la Ligue. C'est un paramètre qui va forcément changer avec Robert Williams. C'est aussi le fait que la saison régulière, on est plutôt tranquille en défense, quoi. Ou alors un carton sur quatre, quoi.
Bah, c'est un petit peu ça. Ce qu'il faut dire, c'est que les personnes qui vont remplacer Robert Williams, c'est des profils intérieurs qui sont plus shooters que gros défenseurs. Donc c'est aussi ça qui va jouer un petit peu sur les stats. On est sur un début de saison qui est très prolifique en termes de scoring. On a énormément de joueurs qui sont à plus de 30 points par match. Donc les équipes, en moyenne, marquent plus. Je pense que c'est symptomatique du début de saison. On est en train de se mettre en place, etc. Ce qui est particulier avec Boston, c'est aussi les tirs à deux points. Ils en prennent très très peu, par contre c'est parmi les plus efficaces de la ligue. C'est à dire qu'il y a cette intelligence de se dire, dans le basket moderne, le tir à deux points, je dois le prendre quand je suis sûr de le mettre.
Oui, mais en même temps, ils ont l'intelligence, oui, mais ils sont tellement adroits à trois points qu'ils auraient tort de se priver, de reculer un petit peu et de prendre
un tir. Non, mais il y a des gens qui peuvent insister.
Tu es en train de dire que ça joue comme le slug de Jean-Luc Manchot.
Exactement.
Pas de tir intermédiaire.
Là où Sacha a raison, et c'est sur l'évolution de Jason Tatum, on se rappelle que Jason Tatum, par le passé, prenait énormément de long two, des jumpers après dribble à 5-6 mètres, qui ne sont pas les meilleurs tirs au basket. Et aujourd'hui, Jason Tatum.
Qui n'existe quasiment plus, d'ailleurs.
Et il a fait évoluer son jeu sur du tir à trois points après dribble.
boules et surtout beaucoup de drive, beaucoup de percussions pour finir au cercle et aussi envoyer les tireurs au large qui sont grand ouverts. Après là, l'axe de progression aussi, et c'était par rapport au final NBA, rappelez-vous, en final NBA, quasiment une possession sur 5, ils ont envoyé un ballon en tribune. Ils ont arrêté aussi de perdre des ballons stupides. Bah voilà, là c'est mathématique, hein. Quand vous perdez pas des ballons et que vous les avez dans les mains, vous avez plus de possibilités de shooter et donc plus de possibilités de mettre des points. Donc ils ont corrigé ça.
Ils montaient sur ça.
Ouais. donc prendre soin du ballon aussi, c'est important. Et puis ils ont voilà, et puis le jeu demi-terrain est impressionnant. Je crois qu'ils sont à 109 points sur 100 possessions sur demi-terrain, alors que la moyenne NBA est 95. C'est colossal. Ça veut dire qu'il y a peut-être pas énormément de contre-attaques, mais le jeu négocié sur demi-terrain, ils trouvent à chaque fois le bon tir, le bon joueur ouvert. Et ça aussi c'est fort.
Ce qui est de manière générale dans le basket, souvent t'as des équipes, tu sais qu'elles sont ric-rac sur demi-terrain, donc on va vouloir à tout prix du jeu rapide, de la relance, et au final être efficace, c'est presque si t'es bon sur demi-terrain derrière.
C'est beaucoup plus. Alors concrètement, c'est beaucoup plus important d'être bon sur demi-terrain que sur la course, parce que la course ça peut être stoppé.
C'est trop dépendant des circonstances du match.
Exactement, il faut récupérer des ballons, il faut aller au rebond, etc. Sauf que quand tu tombes contre des équipes qui sont bonnes en défense, bah elles vont te couper ces contre-attaques. Donc elles vont t'amener sur demi-terrain. Si tu es capable sur demi-terrain de trouver des options, de bien circuler la balle, d'avoir plein d'options différentes offensivement, parce que effectivement on parle de ce gros duo, mais autour il y a quand même des joueurs qui sont capables de marquer des points aussi. Et ben honnêtement, cette équipe, moi je pense qu'elle est vraiment très sérieuse.
Avec Robert Williams, ça en fait. Parce qu'ils vont le récupérer d'ici décembre, d'ici Noël à peu près. Il s'est fait nettoyer le genou, arthroscopie, Sacha. C'est pour toi aujourd'hui, un prétendant par rapport au début de saison. On est déjà à un quart de la saison régulière. Les Celtics, favoris pour le titre aujourd'hui ?
Bah, favori, c'est toujours difficile, surtout quand t'es à la première place dans la conférence Est, parce qu'en général, elle porte pas trop bonheur. T'as très peu de chances d'aller en finale si tu finis premier à l'Est. Par contre, ouais, comme vous le disiez, je pense qu'ils ont comblé un petit peu ce qui leur manquait sur les dernières finales. On a vu que sur demi-terrain, ils n'étaient pas inspirés, ils perdaient des ballons, c'était pas très très propre. Et il y a 4 matchs où ils sont à moins de 100 points. Donc je pense qu'il y a aussi peut-être ça qui traîne dans leur tête. On va se dire, et on va essayer de combler un petit peu ce qui nous a pêché lors de ces finales-là pour avoir un nouveau style de jeu. Et là, l'offensive correspond bien. Favori, j'ai encore du mal parce que j'ai l'impression que les autres équipes n'ont pas encore démarré. Tu vois, une équipe comme Milwaukee, ça gère son début de saison, ça gère sa saison régulière pour arriver très frais.
Après, les Bucks ont tellement de certitudes dans leur jeu, dans leur équipe, qu'ils n'ont peut-être pas forcément besoin d'archi-dominer
Ils ont un passage un peu plus compliqué, mais ils ont quand même un début de saison malgré l'absence de Middleton, plutôt
ils
très
dominent sans avec Vogue qui a manqué des matchs, Rolidé en plus.
Après, est-ce que cette équipe peut gagner en étant tout porté par l'attaque ? Faut se rappeler qu'en 2021, les Bucks sont champions avec la meilleure attaque et la 22e défense, et en 2018, les Warriors sont champions avec la meilleure attaque et la 18e défense. Donc c'est possible, ça existe. C'est pas rédhibitoire d'avoir un jeu porté sur l'offensive, mais malgré tout, je pense que ça va basculer quand Robert Williams va rentrer. Ils vont prendre beaucoup moins de points, notamment dans la raquette.
Moi, je crois que c'est l'opportunité qui fait qu'ils marquent beaucoup de points et qu'ils défendent un peu moins, parce que justement, ils dominent tellement offensivement qu'ils n'ont pas besoin de se forcer autant. Mais je pense qu'encore une fois, l'ADN de cette équipe, elle peut être défensive. Donc, je pense qu'ils vont revenir à des bases plus saines quand ça va avancer.
Après, ils ont besoin d'une rotation supplémentaire parce qu'ils jouent à 8,5. J'aime bien le petit Sam Hauser, mais bon, c'est pas lui qui va faire que cette équipe des Celtics va être champion NBA. Donc, il tire beaucoup sur
Sam Hauser, sa mère, quoi.
Sam Hauser, oui. Sam Fazer. Je pense qu'ils ont besoin d'une rotation en plus sur le poste d'intérieur, parce qu'on sait qu'Alor Ford n'est plus de toute première jeunesse non plus. Et ils ont besoin de verticalité. Je trouve qu'il manque de dissuasion et de qualité et de verticalité sur les postes intérieurs. Et Robert Williams, c'est ce chaînon manquant, parce que Luke Cornett, il a autant de détente que moi. Noah Vonleh joue quasiment pas.
Mais Cornett, moi j'aime bien. Quand il saute comme ça,
dans la raquette.
Vous citez pas Blake Griffin pour défendre ?
Et Blake Griffin.
Blake Griffin, 8 matchs cette saison pour des. Mais Griffin, c'est dur, triste fin de carrière pour lui. Triste fin de carrière. Ouais, mais quand t'as plus 1m50 de détente, il a essayé de se réinventer en devenant un tireur à 3 points, mais là on s'aperçoit qu'il n'est plus il est sur la jante.
On se souvient de sa mécanique de tir. On l'a pas cité dans notre podcast qu'on a fait il y a quelques temps sur les mécaniques de tir hyper robotiques.
Parce qu'il y a pire quand même que lui.
Oui. C'est sûr. On rappelle les rotations. Bon, Tatum, Brown, Smart, Horford, c'est plus de 30 minutes. T'as Grant Williams à 28 minutes derrière. Derrick White, Malcolm Brogdon. Et derrière, on tombe à moins de 20 minutes. Sam Hauser, Luke Cornett, Blake Griffin, Peyton Pritchard et compagnie. On rappelle, il n'y a pas Danilo Gallinari qui est presque un peu déçu de ne pas le voir dans la rotation. Il ne va pas revenir de l'année, a priori.
Je pense qu'il ne va pas jouer la saison. Après, c'était un truc supplémentaire avec Danilo Gallinari sur un poste 4 fuyant, 4-3 grands.
Pas en défense, mais
mes Gallinettes se seraient régalées sur ce jeu ouvert à 3 points. Clair.
Pour répondre à la question que j'ai posée à Sacha, est-ce que vous les voyez un peu plus favoris aujourd'hui avec ce quart de la saison régulière ?
Moi, je les vois clairement prétendants à une finale NBA, les Celtics. Après, il va falloir se taper avec, avec les Bucks. Il va falloir se taper avec les Bucks.
Ouais, je suis complètement d'accord. Moi, en plus, j'aime beaucoup cette équipe. J'aime comment ça circule. Encore une fois, offensivement, c'est intéressant, mais je sais qu'ils vont être capables de mieux défendre. Donc,
ils ont deux mutants, surtout.
Oui.
Oui, on peut dire à l'Est, il y a Boston, Milwaukee et les autres.
Ouais, Cleveland, qui peut avoir un rôle à jouer. Ouais. Les Sixers, si jamais un jour ils sont au complet.
Oui, un jour, ça. Puis un si jour. Ça fonctionne bien sur le terrain.
Exactement, là ça fonctionne bien, mais Joel Embiid dernier, il y a le petit Shake Milton qui prend un peu de...
Et vous, PJ Tucker, vous avez vu ça?
Il a mis un panier, c'est bien, bravo PJ.
Il se fait railler parce que il y a eu des tweets comme quoi, sympa le cardio de PJ Tucker, parce qu'il passe plus de 30 minutes sur le parquet.
Il met pas un panier. Hein.
C'est fou.
Ouais. Je sais pas s'ils l'ont pas pris pour mettre des paniers, mais bon.
Non, mais bon,
ça pied, c'est bien aussi. Hein.
C'est bien aussi, oui.
Des allers-retours.
C'est un peu comme les arbitres, finalement.
On peut apprendre pour le podcast running.
Ouais, bah pourquoi pas, suggestion. Allez, on n'a pas trop parlé de Jaylen Brown et Jason Tatum, c'est normal, puisque c'est notre deuxième débat. Est-ce que c'est le meilleur duo de la NBA?
Tatum. Oh, where did that come from? He went on one, got by one, and went right over the second guy. Oh, what a tough move by Brown. He got deep post position, no need to dribble it.
Brown, deep three. Wow.
Just like that, stretched it back up to 14.
To the basket, for two. Jason Tatum picks it up with 2.9. Ooh. Brown,
wow. Oh, my gosh. He just accelerated through there. From second gear to overdrive.
Tatum, over the rookie.
Oh, no space, no problem. Jason Tatum, 6-3.
Les deux meilleurs joueurs de la meilleure équipe actuelle, Jason Tatum et Jaylen Brown, qui vampirisent le jeu des Celtics, Sacha.
Ouais, ce duo qui a été vanté par Luka Doncic, qui a dit tout simplement c'est le meilleur duo actuellement dans la Ligue. Je regardais un petit peu les classements, etc. Et est-ce que vous pouvez deviner aujourd'hui, c'est quoi les trois duos les plus dominants en scoring en NBA?
C'est Embiid, Maxi et Trae Young des jeunes Temerais, non?
Non. Morant, Bane?
Non. Il vous manque Donovan Mitchell et Darius Garland.
Ah oui, Donovan Mitchell et Darius Garland.
Et en fait, le duo de Boston, c'est le seul duo qui a ces deux joueurs qui sont au top 20 au scoring. C'est très très fort, puisque Tatum doit être 7e et Brown dans
le tournoi. 6e et 14e.
Alors moi, j'ai regardé ce matin, c'était 13e, mais ça bouge tous les jours.
Mais ça bouge tout le temps. Et moi, j'ai regardé il y a 5 minutes, mais c'est pas grave.
Tiens, je regarde à l'instant, ils sont 14e.
Ah ben, ça a encore bien bougé. Non, c'est donc le meilleur duo offensif de la NBA. Et donc, on l'a parlé, c'est une sélection de tiers. C'est Jaylen Brown qui est dans un rôle où il a peut-être un peu moins besoin de la balle que Jason Tatum. Jason Tatum qui a trouvé son jeu avec beaucoup plus d'efficacité. Et aujourd'hui, ouais, ça domine. Alors que quand on regarde un petit peu dans l'histoire, quand on a des postes 2, 3, 4 qui peuvent à peu près se marcher dessus, c'est un des seuls duos de ce type-là qui fonctionne. Ça fonctionne mieux qu'un Kawhi, qu'un PG. Et c'est des duos qui...
Quand il pédie, on ne sait pas comment
oui,
ça fonctionne.
Si on se base sur ce qu'ils ont pu produire par le passé, on sait que c'est des duos qui ne sont pas forcément faciles à installer, qui peuvent se marcher dessus. Bah voilà, après c'est des exemples qui sont assez exceptionnels, mais
il y a Chris Bosh aussi,
ça,
pas sous-estimer dans...
En général, sur les one-two punch, on voit que c'est plutôt des postes qui sont complémentaires avec un arrière, un intérieur, etc. Et là ils sont sur
des postes aussi proches. C'est intéressant ce que dit Sacha, Stephen. C'est vrai que souvent on parle du duo le poste 1, le poste 5, éventuellement les deux arrières, des meneurs arrière, et là de voir sur les ailes alors ils ont des profil différent, hein. Bon, on est un petit peu plus petit, un peu plus peut-être sur le poste arrière que Jason Tatum, mais on n'a pas beaucoup de duos comme ça qui fonctionnaient aussi bien. Allez, peut-être on peut remonter à Pippen Jordan, quoi.
Ouais, Pippen Jordan, même si Pippen a longtemps été le lieutenant de Jordan, j'ai l'impression que c'est ce que devient un peu Jaylen Brown, un peu sévère, parce que je pense que Jaylen Brown aujourd'hui n'est plus vraiment un numéro 2 dans l'ombre de Jason Tatum. Je pense qu'il a pris son envol, et on peut le considérer comme un bis aux côtés de Jason Tatum. Tatum sur ce poste 4, il est indéfendable quasiment, parce qu'il a tout au magasin, il est grand, il a le maniement de balle, il a progressé sur sa manière d'attaquer le cercle, il va beaucoup plus sur la ligne des c'est ça aussi qui fait que sa moyenne de points est plus élevée que la saison dernière. Il a progressé sur sa sélection de tir. Avant, il n'avait pas trop le tir à 3 points après dribble. Maintenant, il met sur la truffe des gens après 3, 4, 5 dribbles. Mais la plus belle progression, c'est Jaylen Brown. Rappelez-vous, l'année dernière, au début de saison, on était en train de se poser la question, est-ce qu'il faut faire péter le duo? Ça ne marchait pas. Tout allait de travers du côté de Boston. Les deux, d'ailleurs, avaient eu une vraie discussion en disant, qu'est-ce qu'on fait, mon grand? Est-ce qu'on devient les deux meilleurs joueurs de cette équipe et on essaye d'emmener les Celtics au plus haut, ou on se serre la main et il y en a un des deux qui dit bonne continuation à l'autre et on s'en va Ça veut dire que ces deux garçons déjà intelligents.
Ouais, c'est très fort de pouvoir se dire ok, on va cohabiter parce qu'on peut exactement. Être les deux meilleurs ensemble. Et ça, c'est très fort.
Exactement. Donc tu t'aperçois que t'as deux garçons un peu plus intelligents que la moyenne dans cette ligue-là. Et puis Jalen Brown est fantastique. C'est hyper athlétique, a tout en magasin, met des posters de l'au-delà, mais a progressé aussi sur sa sélection de tir, sur son adresse. Il a 59% à deux points, c'est énorme. C'est énorme pour un arrière d'être à 59% à deux points. Il prend des rebonds, il fait des passes. Les deux ont une énorme qualité de passe. Et c'est pour ça aussi que le volume de points est énorme de cette équipe des Celtics. C'est que ces deux garçons-là trouvent les bonnes décisions. Écoute, le meilleur duo, oui. Après, j'aime bien Trae Young des Jeunes Téméraires aussi, le duo des Hawks, même si sur un mauvais soir ils peuvent déchirer les deux en termes d'adresse. En général Tatum et Brown, les deux ne passent pas à travers. Il y en a un peut-être qui peut passer un petit peu à travers, mais il y en a toujours un qui est là. Après il y a Joel Embiid, Tyrese Maxey, mais le problème c'est que les deux sont souvent pétés et ont rarement joué ensemble. Mais voilà, que ça soit le meilleur solo de la NBA et Luka Doncic qui vante le meilleur duo, moi ça me va.
Oui,
ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal.
Fred, est-ce qu'aujourd'hui on a le sentiment que Jalen Brown passe un peu moins derrière Jason Tatum, qui est un peu plus star, qui est champion olympique? Jalen Brown n'était pas dans la sélection de Team USA. On sentait qu'il y avait quand même un petit déficit d'image pour Jalen Brown.
Non, mais je rejoins Stephen. Je pense que malheureusement, il est un bis. Il ne sera jamais un complètement. Il est effectivement, quand on pense aux Celtics, on va penser à Tatum tout de suite. Automatiquement, je pense que c'est malheureux pour lui. Il est dans son nom, mais encore une fois, je pense que c'est un garçon suffisamment intelligent pour l'avoir compris, pour comprendre que tu peux être quand même une superstar à côté d'une superstar, j'ai envie de dire. Ils jouent super bien ensemble. Brown, moi j'adore. Mais après, si tu me poses la question si c'est le meilleur duo en efficacité, oui, sans problème. En même temps, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais moi, il y a un duo qui me plaît beaucoup, c'est Jamorant et Desmond Bain. Parce que c'est un duo qui m'excite, et j'ai un autre duo qui m'excite beaucoup. C'est KD et Kyrie. Alors oui, on le fantasme, oui, peut-être qu'on le reverra pas, ou en tous les cas pas au niveau où on veut les voir, mais sur le papier, quel duo aussi. Enfin, honnêtement, moi,
il y en a beaucoup
rêver.
Des duos sur le papier
et juste pour revenir à Ja Morant et Desmond Bane, franchement, cette équipe de Memphis, elle est hyper enthousiasmante aussi. Voir ces joueurs, ça me plaît. Il y a de la hype, il y a tout ce qu'il faut. Et j'ai l'impression, encore une fois, je vais peut-être m'avancer un petit peu, mais comme le disait Stephen, est-ce que ces deux joueurs sont vraiment complètement complémentaires, Tatum et Brown? Je ne suis pas sûr. Alors que Morant et Bane, pour moi, ils sont absolument complémentaires.
Mais là, il y a un peu plus d'écart de poste.
Oui, c'est pour ça. Ils sont plus complémentaires à proprement parler. Encore une fois, je ne dis pas qu'ils apportent plus que Tatum et Brown, mais ils sont plus complémentaires sur le terrain.
Et l'histoire de l'évolution de Jalen Brown, elle est quand même assez fantastique. Je ne suis pas sûr que c'est un joueur qu'on anticipe à ce niveau-là. Si on se rappelle vraiment de ses premières années chez les Celtics, c'est surtout un 3&D qui prend des shoots à 45 degrés à 3 points. Gros dunker, gros défenseur. Aujourd'hui, c'est un joueur qui est totalement complet. Et son intelligence, elle est souvent vantée aussi dans les médias. On dit que c'est quelqu'un de très posé, très réfléchi, qui fait des cours à l'université,
comme toi,
etc.
Exactement. C'est exactement ce qu'on vante quand on parle de toi. Hein.
Non, mais je pense qu'il y a aussi cette humilité qui se dégage de ce mec-là et qu'il a justement, il a bien compris que Tatum, de toute façon, il est conditionné à être en lumière. C'est ce qu'on attend de lui. C'est un haut pic de draft. C'est une superstar.
Ouais, mais imagine-toi, être capable de se mettre un petit peu, alors il est quand même dans la lumière, mais un petit peu dans l'ombre, juste parce que tu veux gagner et que tu sais qu'à côté de toi, t'as un monstre.
Je trouve que ça rend la position de Jalen Brown comme le ciment de cette équipe de Boston. Oui. Alors souvent on peut dire Draymond Green par exemple c'est le ciment des Warriors, etc. Mais je pense que si tu enlèves Jalen Brown de cette équipe-là, ça peut être très difficile. À un moment donné, effectivement, Steve le disait, on pensait à les séparer et j'étais même en train de me dire est-ce qu'il faut pas garder Brown parce que justement il assure un petit peu tout ce truc-là et Tatum a une énorme valeur et là tu peux avoir un marché qui s'ouvre à toi.
Après il y a un paramètre simple au-delà du terrain. La NBA est un business. Tu regardes les contrats, Tatum c'est 30 millions la saison, Brown c'est 28,7. Donc il y a presque une forme d'égalité, mine de rien.
Oui, c'est mérité.
Par rapport à l'un, par rapport à l'autre, au moins il y a une justification.
C'est sûr qu'on n'est pas sur du Ja Morant et Desmond Bane en termes de contrat. Mais ce que je trouve bien aussi, c'est que ces deux garçons qui ont été draftés par la franchise 2016, et deux garçons qui sont troisième choix de draft, je crois.
C'est les fameux choix des Nets.
Jalen Brown et Tatum sont numéro 3 de draft en 2016 et en 2017. Donc je trouve ça bien d'avoir deux leaders de franchise draftés par la même équipe. Et on peut citer bien sûr Stephen Curry et Klay Thompson aux Warriors, parce qu'on parlait de Best Duo, pendant pas mal d'années, c'était peut-être un des meilleurs duos de la ligue, oui. Curry et Thompson. On peut citer aussi à l'époque des Rockets, James Harden et Russell Westbrook ont fait pas mal de dégâts en termes de chiffres. Je te parle pas en termes de victoires.
On n'a pas drafté ensemble pour le
mais,
coup.
Non, mais en termes de chiffres, ils ont fait aussi des sacrés dégâts. Et je trouve ça bien d'avoir deux garçons draftés que la franchise a laissé grandir et t'as une vraie identité.
Oui, mais en même temps, sur ça, les Warriors et les Celtics font beaucoup de bien à la ligue. Parce que justement, ils disent, ok, nous on draft. On fait travailler nos joueurs, on les fait progresser. On est là, on travaille avec eux, on grandit ensemble.
On bazardera pas tout au premier accro.
Exactement, exactement. Et je trouve que ça, qu'est-ce que ça fait du bien de voir des équipes comme ça.
Ça fait mal à Philadelphie, parce que Philadelphie, c'est un peu la même stratégie, mais ça a jamais payé. C'était des trusts de
projet,
des
rugby,
exactement. mais tu t'aperçois que finalement, il y aurait pu avoir un duo fantastique à Boston, qui est Kyrie Irving, Jason Tatum, mais ça n'a pas fonctionné parce que Kyrie,
c'est plus
un problème Kyrie que Jason Tatum. Et Boston a très vite compris que ça pouvait pas prendre. Et ils s'en sont séparés d'un commun accord, Kyrie Irving voulait partir et Boston l'a laissé filer. Maintenant, Jason Tatum, pour moi, aujourd'hui, après une vingtaine de matchs en NBA, est pour moi le numéro 1 MVP de la saison. On parle beaucoup de Luka Doncic, c'est mon équipe, j'ai beaucoup
gagner.
Joué, les Mavs à regarder jouer, c'est à vomir, hein, je vous le dis tout de suite. On se rapproche beaucoup de ce que faisait James Harden à Houston avec Luka Doncic, donc c'est cata. Tatum, il est dans une équipe qui gagne, premier de la conférence Est, il a 30 pions de moyenne avec des pourcentages hallucinants. Il est même devant Yanis pour moi aujourd'hui, pour le favori de MVP.
À l'instant T, évidemment. Encore une fois, l'équipe qui gagne, ça valorise beaucoup le travail d'un Tatum, forcément.
Oui, et puis ça peut être compliqué de donner un troisième titre de suite à Jokic.
Oui, ça commencera à faire grincer des dents NBA, tout de suite. Déjà que je pense qu'ils ont les boules que l'Europe, le monde domine. Et les quatre derniers. Et puis non, Tatum, Brown, Sacha l'a dit, humainement, je pense que c'est des mecs top. Après, moi, je me régale, Jason Tatum avec son fils, Deuce, là, qui arrive sur le parquet, qui fait ces petites histoires-là, c'est des choses qui plaisent et qui plaisent aux États-Unis. Et puis, en termes de drama, j'ai pas en mémoire de la part de ces deux garçons des choses hors basket, en fait.
Le seul drama qu'il y a eu, c'est coach.
Heureusement qu'il y a eu Udoka pour mettre un peu de piment dans cette franchise.
Ils y sont pour rien. Je pense que quand on dit qu'humainement c'est top, ça se ressent quand même sur le jeu, sur l'endroit.
Mais la coach, justement, malgré le changement de coach, tu pensais que c'était Udoka qui avait fait le truc, et finalement, malgré le changement de coach, il continue à travailler dur.
Et c'est ça qui est surprenant, parce que moi, le premier, je voyais Boston avoir du mal au démarrage, parce que tu viens de perdre une finale NBA compliquée sur les trois derniers matchs où tu joues pas bien au basket. Il y a un tremblement de terre avec l'affaire Udoka, tu perds ton coach.
Mais t'as Brad Stevens qui est quand même au-dessus.
Oui, mais tu ramènes Joe Mazzulla qui est quand même un jeune coach qui connaît pas le rôle de head coach.
Non, mais tout le monde pensait ça.
Et finalement, c'est surprenant. C'est surprenant, et ça, le crédit qu'on met à qui,
l'intelligence
le crédit, c'est
l'institution.
Bien sûr, l'institution Celtics. Quand tu rentres dans la salle et tu lèves la tête, tu sais où t'es.
Ah oui, tu les vois, les bannières.
Ça, je sens une transition, là.
Eh bien, écoute, oui, parfaite transition, puisque on va s'intéresser aux 5 de légende des Celtics. Et là, je ne sais pas si on va pouvoir faire le tour en 10 minutes. 28 secondes, Bird. Slap pass to Archibald. Won't go. Bird, the rebound. Over his head to McHale. Larry Bird, Reed playing the tough defense as usual in this series against him. Parrish has hit another one. Bob Cousy, Sam Jones, Tom Sanders, Bill Russell, Felix Auneau. And a foul. Russell has 19 points. Ray Allen, tough shot. And Rondo takes it away, spins, puts it off, banks it in. Rajon Rondo putting on a show. J'ai vraiment entendu Rajon Rondo dans... d'accord. Attends, il y a peut-être débat.
Quelqu'un va prononcer le nom de Rajon Rondo ici dans... Ouais. T'es sérieux?
Peut-être.
Par défaut de jeunesse, en fait. Ah, parce que toi, tu t'es arrêté après 1990.
Non, j'ai commencé. Je suis bien content de ne pas être un débatteur et plutôt un animateur. D'ailleurs, Stephen, tu n'as pas remarqué que j'avais fait l'effort vestimentaire.
T'as une veste de Celtics.
Et oui, votre 5 de légende des Celtics. Eh bien, tiens, puisqu'il y a débat, monsieur Sacha Alix, au tableau.
Alors, moi, je sais que je vais faire grincer des dents. Je vais l'assumer totalement. Il y aura beaucoup de cœur dans ce 5.
Ah, donc on n'est pas sur, de l'objectivité, là.
On est plus sur du all-time, on est sur un 5 de cœur.
Ça peut être justifié aussi. On a préparé tout ce qui pouvait se passer. Rajon Rondo, elle amène, bien sûr. Bah, franchement, hyper important. Le seul titre moderne des Celtics, elle amène, c'est un espèce de cyborg hybride. Il n'y a que lui qui joue comme ça.
Et puis, il a perdu aussi le deuxième titre à lui tout seul sur les lancers francs.
Oui, bon, après, ça, c'est autre chose.
C'est quoi ses stats pendant qu'il est à Boston? Parce que pour moi, il a 11 points, 8,5 passes.
Ça doit être ça et ça doit être
et
pas mal.
Je pense que ça mérite d'être all-time.
En fait, je veux remettre les choses dans le contexte. À cette époque-là, on a des meneurs qui dominent en NBA, c'est Chris Paul, Deron Williams. Le troisième qui arrive à se faire un nom, c'est Rajon Rondo, avec un style qui est totalement différent des autres. C'est un mec qui, offensivement, a des galères, il ne sait pas tirer, etc. Pourtant, il arrive à tirer le meilleur de son jeu dans la passe et dans la défense et à faire les différences jusqu'à ce qu'on dise que Boston devient un Big Four quand il est avec lui. Donc, moi, je me dis, c'est quand même quelqu'un de marquant dans l'histoire moderne des Celtics avec un style qui est atypique. Ça me plaît, on se rappelle tous de ses dream shakes. Enfin,
moi, je me rappelle surtout son passage à Dallas. Donc,
je comprends que t'es le seul. Il n'y a pas de problème.
C'est vrai que sa carrière en dehors de l'épopée des Celtics,
c'est terrible. Donc, c'est pour ça, j'ai envie qu'on se rappelle.
On le juge que sur les. Alors, je vais te défendre sur ce coup-là. On juge que sur les Celtics.
Oui, mais donc, c'est un moment de grâce pour ce joueur-là.
Parce que sinon, tu pourrais mettre le Shaq aussi.
Oui, d'accord. Non, mais pour dire qu'il y a des garçons, qui ont brillé dans des franchises, qui étaient forts et qui ont réussi à briller ailleurs.
Oui, bien sûr.
Mais est-ce que paradoxalement, un fan des Celtics va pas plus citer spontanément aujourd'hui, malgré le titre de Rajon Rondo, un Marcus Smart sur le fait qu'il marque un peu la franchise de son empreinte?
Ouais, t'es sévère là. Quand même.
Je sais pas, je demande.
Ah, Rajon Rondo, il est une bagouze quand même. Ça fait vraiment la différence par rapport à un garçon comme Marcus Smart. Si on s'arrêtait sur l'ère moderne. Mais après, le problème, c'est que tu chies sur l'histoire.
Je sais, on me le reproche souvent.
Différents 5. La suite.
Au poste 2, ça va être bizarre. Et là, je vais encore me faire insulter, mais je l'assume encore une fois. J'ai envie de rendre hommage aussi à Isaiah Thomas. Forcément, parce que...
On en est là.
Après, je veux que qui irait Allen. Ou alors, je peux mettre des joueurs bien plus historiques. Mais qu'est-ce que tu veux que je te raconte sur eux? Ah ouais, cette fameuse épopée des années 70, c'était incroyable. Je préfère parler de choses que j'ai vues.
Très bien, vas-y.
Isaiah Thomas, parce que je pense qu'il a survolé dans une équipe qui était un petit peu perdue. Ce qu'il arrive à faire avec sa taille et son jeu, planter des 50 points, amener cette équipe en play-off, ne pas faire en sorte qu'il se fasse éliminer de manière très honteuse.
Alors que lui, il a eu une bien meilleure carrière après, hein, d'ailleurs.
Non plus.
Non, mais l'histoire, il perd, je crois, qu'il perd sa soeur, la veille d'un match de play-off.
C'est ça, et il y a tout storytelling, je pense, et on a vu aussi l'attachement qu'avaient les fans de Boston à ce joueur-là. Quand il se bat, on sent que c'est très difficile. Et ça n'a pas ramené des bonnes choses derrière en plus. Donc, Isaiah Thomas, pour moi, c'est important. Après,
tu vas filer un tous les contrats là aujourd'hui, Isaiah Thomas.
Ouais, non, là, c'est un peu dur. Ça. Mais et donc, là, au poste 3, par contre, je vais rendre hommage à l'histoire. Forcément, Larry, la légende. Parce que,
on a eu peur.
Ah non, mais t'imagines, je te lâche pas le pire, c'est compagnie. Non, forcément, Larry Bird, parce que même si c'est un joueur d'une autre génération, si tu regardes, etc., ce qu'il a fait.
Allez sur YouTube, regardez ce qu'il fait.
Non, mais c'est ça, c'est un magicien. Je pense que c'est un mec, dans n'importe quelle époque du basket, il aurait révolutionné le game. Tu le mets aujourd'hui, je pense que ça aurait été un joueur de ouf aussi. Le fait de faire des passes claquées sur des rebonds qui se transforment en passes D, moi, je trouve ça magnifique. Poste 4, je vais mettre Kevin Garnett, parce que je pense que c'est lui qui a incarné aussi l'âme des Celtics.
Moi, je vais m'en aller. Je te remercie. C'était vraiment très sympa ce podcast.
Je prendrai ta place pour le 5 si tu veux.
Vas-y.
Et non, Kevin Garnett, parce que je pense que c'était lui vraiment l'âme de cette équipe aussi quand ils ont remporté le titre moderne. Et on finira avec Bill Russell, parce que comment ne pas le citer? C'est quand même lui qui a assuré les plus grandes lettres d'histoire.
Non, c'est que t'allais mettre à leur forme.
J'étais pas loin, figure-toi.
Tu peux pas citer Garnett si tu mets pas Paul Pierce.
Ah, je mets absolument pas Paul Pierce, parce que je.
Ah, si tu mets Garnett, à l'arrière, ne pas mettre Paul Pierce.
Bon, alors, okay, Paul Pierce, mais... je comprends que c'était un petit peu cette icône populaire, il a représenté l'équipe, etc. Mais quand on est passé en mode vraiment challenger pour le titre, je trouve que Garnett a pris le dessus, et même dans le fighting spirit qui est propre au Celtic, c'est lui qui l'a le mieux incarné. Et ça a complété. Je trouve que le jeu qu'il avait avec les Celtics, il était quasiment parfait, le jeu de Garnett. Il était juste sur tout ce qu'il faisait.
Le match contre Cleveland.
Paul Pierce, pour moi, c'est plus un Bostonien dans le cœur que KD.
Non, mais
quand il s'est lancé contre Cleveland, c'est en demi-finale. Tu vois pas de finale de conf en 2008. Enfin, c'est incroyable. Ils mettent 40 pions presque, LeBron et lui. Enfin, et quand même.
Je respecte le choix de.
On
Sacha,
respecte.
C'est gentil, merci.
Voilà. Sacha a 30 ans, moi j'en ai 42. Donc.
Donc les matchs des années 50. Tu les as connus. Allez,
je
les
ai connus. Non, mais j'ai vu quelques images.
Mais je comptais sur vous pour la partie histoire.
À la main, je suis obligé de mettre Bob Cousy. Parce que déjà, il n'y a pas une énorme concurrence. C'est un mec qui est 6 fois champion NBA, qui a le numéro 14 retiré. C'est le premier vrai meneur de jeu de l'histoire de la NBA. C'est un peu un Steve Nash avant l'heure. Maniement de balle exceptionnel, passeur fantastique.
8 fois meilleur passeur de la Ligue.
Un duo avec Bill Russell qui était impossible à arrêter, même s'il avait une petite carence sur le tir avec des très petits pourcentages. C'est un mec qui est quand même à 18%. points, 5 rebonds, 8 passes de moyenne en carrière. Voilà, je crois que à Boston, je crois qu'il n'y a pas photo sur le poste de meneur de jeu.
Ça me fait plaisir parce que je l'ai mis, et surtout, pour rejoindre sur ces meneurs modernes, c'est lui qui a ouvert la voie derrière à Jerry West, à Oscar Robertson.
Exactement. Après, sur le poste derrière.
Pas confondre avec Bob Petit.
Bob Pettit.
C'était pas le même poste.
C'est pas le même poste. Sur le poste derrière, j'ai mis John Havlicek. Là aussi, on est dans l'histoire des Celtics. 8 titres NBA, une fois MVP des finales, 16 saisons NBA. Et ce qui est fort, ce que j'aime bien, c'est John Havlicek, déjà, c'est que c'est un sportif au sens large du terme, parce qu'il a été drafté en NFL à l'époque par Cleveland, donc tu sens qu'il y a quand même une polyvalence exceptionnelle. Et quand tu te rappelles à l'époque des conditions de voyage, que le médical, bon, était à des années-lumière de ce qu'on peut faire aujourd'hui en termes de technologie et en termes d'organisation, c'est un garçon qui, en 16 ans, une seule fois, a loupé plus de 7 matchs sur une saison.
C'est monstrueux.
C'est énorme. Il fait même une campagne de play-off en 73 avec l'épaule disloquée, mais il fait toute la campagne de play-off. C'est un mec qui a longtemps été 6e homme à Boston, mais quand Russell et Sam Jones ont pris leur retraite, c'est lui qui a pris les commandements des Celtics. 21 points, 6 rebonds, 5 passes en carrière. Un vrai joueur de basket.
Écoute, j'ai pris aussi Havlicek, donc j'en profite pour en parler. Top 50 de l'histoire sur la première liste dans les années 90. Il a le record de points marqués en play-off, justement en 73, avec 54 points contre les Hawks, et meilleur marqueur de l'histoire de la franchise. Donc,
Pas photo. Après, sur le poste d'ailier, il fallait que je tranche entre Kevin McHale et Paul Pierce. Et j'ai pris Paul Pierce, pourquoi ? Parce qu'il est MVP des finales. Et pour moi, ça fait la diff. Ça fait la diff dans le casier de Paul Pierce, qui était un fantastique scoreur, son surnom, The Truth, forcément fantastique scoreur. Et là où c'était fort pour Paul Pierce, c'est que dans une ère ultra athlétique où les mecs vont vite, c'était pas un énorme athlète. Il allait pas super vite, mais il avait une science du jeu, pouvait marquer dans toutes les positions, tireur à 3 points, post-up, il avait tout
le
magasin.
Son shoot dans le béton. Là.
Et puis, il avait une énorme paire de baloches. Le nombre de game winners qu'il a mis dans sa carrière, Paul Pierce.
Mais il est considéré comme un des joueurs les plus clutch de l'histoire. Parce qu'il n'avait pas peur de prendre ce genre de shoot.
C'est fantastique, c'est fantastique. Après, j'ai triché sur le poste 4, j'ai mis Larry Bird. J'ai mis Larry Bird parce que, bon, là, j'ai pas besoin de vous faire le résumé de Larry Bird. Et puis, Dream Team 92, voilà, Larry Bird, c'est une vraie légende.
Donc, le dernier a fait 3 titres de MVP de suite. Seul Wilt Chamberlain l'avait fait avant, et même aujourd'hui, alors que c'était l'époque, alors tout début de Michael Jordan, mais il y avait Magic, et ça fait même pas débat qu'il ait 3 MVP de suite. Hein.
Oui, et puis vous avez vu les chiffres en carrière, 24 points, 6 passes en carrière.
Et avec surtout un des trash talkers les plus incroyables de l'histoire de la NBA.
Que 13 saisons. Hein.
Fantastique, c'est pas lui qui avait décidé de jouer un match main gauche, non?
Oui, c'est ça. Voilà, qu'il jouait contre les Lakers après, il a dit non, je vais pas fatiguer ma main droite pour
fantastique,
vous.
Fantastique joueur, passeur, rebondeur, clutch, avec sa petite moustache là, vainqueur du concours à 3 points, avec le fameux poignet, le ballon il est pas encore rentré, il s'en va comme ça.
Bon, les gars.
Donc Larry Bird, et puis sur le poste de pivot, Bill Russell, qui est pour moi le plus grand vainqueur de l'histoire du sport, mais pas que du basket. On soit champion NBA, mais numéro 6 retiré, qui nous a quitté le 31 juillet 2022, et aujourd'hui en NBA, toutes les équipes ont un petit numéro 6 brodé sur le maillot en hommage à Bill Russell. Et puis Bill Russell, c'est aussi le nom du trophée des MVP des finales. Pourquoi ? Parce que ce garçon a trusté les trophées de MVP des finales parmi ses 11 titres. Pas un énorme scoreur, mais
oui,
rebondeur, défenseur, contreur, énorme. Donc voilà, Bill Russell, il n'y a pas photo sur le
poste. Deux finales contre Will Chamberlain, 64 et 69, où il a gagné. Bon, Chamberlain avait fait quand même quelques chantiers.
Le roi des matchs 7, 30 points, 40 rebonds sur un match 7 des finales en 62. Je répète, 30 points, 40 rebonds. C'est monstrueux.
C'est correct.
Oui, ça veut dire qu'il pouvait faire 10 matchs de suite à 2 rebonds. Il était quand même à plus de 10 rebonds de moyenne, Bill Russell. Un monstre.
Bah, j'ai le même 5 que toi, donc je ne rajouterai pas plus.
Fred Ami, Kevin Garnett aussi.
Alors, moi aussi, vous avez pris des libertés, j'en ai pris aussi, donc j'ai pris Bob Cousy, évidemment, parce que, mis à part si t'es un jeune trou du cul, tu ne peux pas ne pas le mettre.
Ouais. Ah, d'accord, très bien. Ah ouais, d'accord,
c'est dilettante ici. Hein.
Ensuite, j'ai mis Paul Pierce, moi je l'ai décalé un petit peu, je l'ai mis en poste 2 parce que j'avais besoin de place, donc il fallait que je le mette quelque part, parce que pour moi, effectivement, c'était un des joueurs les plus clutch et il a marqué quand même son passage à Boston avec 15 saisons là-bas, avec presque 22 points de moyenne et 6 rebonds, donc c'est quand même plutôt pas dégueu. Et c'est là que ça a commencé, donc j'ai mis Larry Bird en poste 3 parce que c'est son vrai poste et j'ai voulu respecter Larry Bird, la légende, on en a déjà suffisamment parlé. En poste 5, Bill Russell, là aussi rien à dire. Et en poste 4, moi aussi j'ai pris Kevin McHale, ouais. Un vrai joueur de basket, un joueur incroyable, triple champion, 2m8 en 971 matchs sous la tunique des Celtics, 18 points, 7,3 rebonds, 13 années de bons et loyaux services pour les Celtics, un joueur assez incroyable, capable de faire énormément de choses, gros scoreur, gros rebondeur,
en
avance sur son temps, 2m8, hein. Donc c'est vrai que très grand
point. À l'époque, c'était pivot 4, d'office. Hein,
exactement. Donc un toucher incroyable, un turnaround magnifique, des mains, même des cannes un petit peu. Alors c'est pas le plus gros dunker que j'ai vu, évidemment, c'est pas le plus flashy, mais un joueur incroyable dans les fondamentaux. Voilà.
Après, il y avait l'embarras du choix pour cette franchise.
Bah, c'est l'avantage. Quand tu parles des Lakers,
tu parles des Celtics. C'est comme à Paris qui passe derrière Bill Russell. Donc, ouais, mais on est obligé de faire un petit choix là.
Si c'est mal terminé.
Robert Paris, champion NBA avec les Bulls quand même.
T'as plein de garçons. Dennis Johnson, Dave Cohen, Nate Archibald. T'as un paquet de mecs qui ont marqué cette histoire de Celtics. C'est peut-être la franchise la plus mythique en NBA avec les Lakers.
Ouais.
Et le coach, Red Auerbach.
Red Auerbach, ouais. Red Auerbach.
Évidemment, oui.
Bien sûr.
Pas de débat.
Avec son cigare.
Exactement, avec modération aussi. Bon, Sacha, ça va pour le...
Le cigare, on ne devrait pas la fumer normalement.
Oui, normalement, tu capotes.
C'est bien, au moins, on a balayé un petit peu tous les joueurs qui ont fait l'histoire des Celtics, donc c'est cool.
Exactement.
Allez, le quiz, c'est parti, spécial Boston Celtics.
Et alors là, je suis très content de ma trouvaille.
C'est pas pour Julien Lepers.
Ma main, Kyle Quinn.
Qui était le coach du coach à l'université, pardon.
Coco-coach.
Coco-coach, absolument.
On sait pas si il est droitier ou gaucher. Ousmane Dembélé.
Mais non.
La merde. T'as toujours été un mec des échanges.
Non mais alors, je suis d'accord.
Jermaine O'Neill.
Attends, j'ai rien compris, Pierrot. Putain, allez loin, là. Maître Capello, voilà, les chiffres et les lettres.
Tu connaissais le jingle ? Une fois Basket Time diffusé sur Twitch. Hein.
Tout à fait. Les chiffres et les lettres, tu connais ou pas ?
Bah, bien sûr.
Ça existe toujours, je crois. Hein.
Oui, ça existe toujours.
Avec un ancien de la maison.
Ils ont dégagé Bertrand Renard.
Laurent Romeschko, il a toujours pas vie.
Laurent Romeschko, non, il est toujours là. Et ils ont pris
Stéphane Cronier, un ancien de la maison.
Qui était un des grands champions des chiffres et des lettres.
Exactement, qui parfois jouait.
Dans la rédac.
Ouais. Bon, en plein milieu de l'après-midi, des fois, on a le droit de faire une petite pause de 20 minutes.
Consonne, voyelle.
Allez, le quiz, messieurs. Difficulté, je vous ai dit 3 sur 5, donc il y a moyen. Pour un point, cette question, ça va être rapide. Quel joueur français a ses droits de draft retenus par les Celtics?
Béguerin. Joël Béguerin, bravo.
Béguerin, ah ouais, c'est bravo. Ici, Sacha. Bravo. Et oui, Béguerin, il n'a pas les droits, il a déjà joué.
Ah,
donc,
oui.
Un point pour Sacha.
Je n'ai pas très bien posé cette question.
Et il kiffe.
Quel ancien joueur de pro est aujourd'hui assistant coach des Celtics?
Gelaranaga?
Non.
Anthony Dobbins?
Anthony Dobbins.
Je crois que c'était Gelaranaga aussi.
Ouais, moi aussi.
Formidable défenseur. Poitiers. Je me souviens surtout de l'époque Poitiers.
Cholet, ouais.
Attends, il a fait Cholet, Orléans, le HTV, Poitiers, ouais. Dijon, Strasbourg et terminé par Gravelines. Trois fois meilleur défenseur du championnat. Oui, arrière, gros défenseur.
Exactement. Très bon mec.
Un bon joueur. Un petit quiz en chair. Je vous dis pas combien de réponses, parce que si vous allez au-dessus, c'est un point pour les autres. Si vous remportez ce quiz en chair, c'est deux points pour vous. Quel joueur français en joue aux Celtics?
Quel joueur quoi?
Quel joueur français en joue aux Celtics? Donc vous me donnez vos enchères. Combien de joueurs français ayant joué aux Celtics vous pouvez me citer?
Trois
ici.
Cinq.
Est-ce que vous allez au-dessus?
Cinq.
Stéphane a dit 6. Cinq en premier.
Non, je sais pas.
Est-ce que tu vas au-dessus ou pas?
Ouais, je pense pas.
Allez, vas-y les 5, Stephen.
Evan Fournier.
Oui.
Jérôme Moïseau.
Oui, drafté en 11e position.
Gershon Yabusele.
Oui.
Vincent Poirier.
Ouais, j'avais ces 4 là.
Mike Pietrus.
Oui.
Voilà, bravo. 5.
Et vous avez le 6e? Eh non, il n'y en a pas.
Ah, voilà, merci.
Alors, il y a un Américain qui est né en France, dont j'ai oublié le nom, puisque son père avait joué à Berck, un joueur qui a... Son père avait notamment fait beaucoup de bonnes saisons à Monaco. J'ai oublié son nom, mais comme il est né en France, mais je ne l'ai pas compté.
C'est une belle info, ça. S'il y avait son nom, ce serait bien, par contre.
Ah, écoute, j'ai oublié de le noter, voilà.
C'est américain des Quilkins. Non, pas du tout.
3 pour Stephen, 1 pour Sacha, 0 pour Fred. Ime Udoka, qui est coach pour l'instant suspendu, a joué en France. Et oui, il a joué en France, Ime Udoka.
À Gravelines?
Non.
À Vichy.
Voilà, Vichy en 2004-2005.
Ah, c'est pas une question.
Non, c'était pas la question. Qui était le coach de la Jave?
Jean-Louis Borg, non.
Non, c'était...
En 2004-2005, il a fait la fin de saison avec Vichy.
Ah,
Palais des Sports,
Vichy.
Pierre Coulon, je crois.
Ouais, Palais des Sports, Pierre Coulon.
Il a coaché Limoges.
Non, je crois pas.
Non, c'est pas lui?
Non.
David Melody, non.
Non, coach. Coach en 2004-2005 de Vichy.
Ah,
une légende de notre basket français.
Oui, Jean-Michel Sénégal.
Jean-Michel Sénégal.
Eh oui, tu me dis non alors. Il a coupé sûr qu'il a coaché Limoges.
Ah, pardon. Excuse-moi. J'ai oublié que
Limoges. Ouais, ouais, voilà.
Il a pas de pression.
Excuse-moi quand.
Il a coaché Limoges. Il m'a coaché même. Il était assistant coach, ils ont viré le coach et ils ont mis Jean-Michel Sénégal. Son nom m'échappait. Désolé, Jean-Michel.
Ah bah, c'est moi qui suis désolé, je suis un peu embêté. Bon,
est-ce oui, du coup, tu m'as oui, mais c'est pas grave.
Comment ça, t'es un peu embêté?
Bah, parce que je lui ai donné le mauvais. Il aurait peut-être donné Jean-Michel Sénégal. Bah,
évidemment.
Sénégal, bon.
Alors, le mec qui est né à Berck, apparemment, c'est Michael Stewart Jr.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Tu vois, tu me dis si tu veux des infos.
Bah, merci. pour ton émission. Je suis embêté, j'ai presque envie de retirer le point, mais non. Ouais,
non, okay, non, bon, c'est pas grave. Je suis bon. C'est pas bon.
Parce que si t'avais dit oui, la coach à l'image,
t'aurais dit. Mais je savais que c'était lui.
Ah.
Mais pourquoi tu l'as pas dit?
Oui, mais quand j'ai voulu le dire, tu m'as dit non. Mais non, je lui dis, je le dis pas.
Ouais, mais t'as envie de balancer le nom quand même.
Oui, au cas où. J'aurais dû savoir qu'il n'avait pas préparé l'émission et que je pouvais
pas. Non, mais j'ai réfléchi comme ça. Attention, qui a parlé? Vous allez écouter. Il y a un énorme piège. Attention, qui parle dans cet extrait?
Yeah, I will, yeah.
I don't know, maybe you know
next year. Oh,
Jimmy Fox.
Jimmy Fox, c'est bon.
Ah, il imite le meilleur imitateur de Doc Rivers.
It's not Blake's fault. It's not on Blake. It's on all of us. Yeah, we all do.
Doc, can you sing happy birthday to my kid?
I like to sing happy birthday.
Voilà, Jimmy Fox qui, sur le plateau d'un late show américain, imite Doc Rivers.
Avec un achat bas.
Non, c'est Jimmy Kimmel.
J'espère qu'il est meilleur, hein.
Et alors, moi, ce qui me fait rire à chaque fois dans l'extrait, c'est qu'il dit « Ce n'est pas la faute de Blake, ce n'est pas la faute de Blake », parce qu'il était aux Clippers à l'époque. Oui. C'est vrai qu'ils n'arrivaient jamais à aller en finale ou loin, en play-off. Il dit « Ce n'est pas la faute de Blake, ce n'est pas la faute de Blake », de Doc Rivers, dont on a peu parlé, finalement, dans cette émission.
C'est très bon imitateur, d'ailleurs. Il est
excellent.
Il est très, très bon.
On s'aperçoit que tout ce qui est contemporain, il est là. Sacha, Joanne Bégarin, Jimmy Fox, il est là.
4 points pour Stephen, 2 pour Sacha, 0 pour Fred.
Chacun
votre tour. Ça vaut 3 points. Il y a 15 noms. Combien de joueurs champions NBA en 2008 avec les Celtics? Vous pouvez me citer.
En
2008. C'est à votre tour de rôle. Voilà, on commence par toi, Fred. Ensuite, ça sera Sacha et Stephen, sans des aiguilles d'une montre. Les joueurs champions avec les Celtics en 2008.
Kevin Garnett.
Oui. Bah, Kevin Garnett, c'est bon.
Rajon Rondo.
Rajon Rondo, c'est bon.
Paul Pierce.
Vas-y, Paul Pierce.
Oui.
Je sais pas si c'est bon. Là, mais oui, évidemment.
Allen. Ray Allen.
Ray Allen. Oui, mais je te regarde.
Kendrick Perkins.
Et oui, le père que Perkins, c'est là.
Ah. Moi, je sais plus déjà.
Glenn Baby Davis.
Mais oui, il est là. Rookie, Glenn Davis.
J'ai commencé à être dans le dur, je vous le dis tout de suite.
Moi, je suis déjà dans le dur, moi.
Steve, ça va. Fred. Donc là, on a fini ce deuxième tour.
Moi, je sais pas.
Tu passes.
Scalabrine, on en a parlé tout à l'heure.
Brian Scalabrine, c'est bon. Sacha.
Tony Allen.
Tony Allen, et oui, c'est pour ça que tu regardais avec les gros yeux.
Pourquoi tu le regardais avec les gros yeux?
Parce qu'il a dit Allen.
Oui.
Voilà.
C'est à moi?
Eh oui. 3 points en jeu. Sacha peut passer devant s'il gagne. Fred est en jeu.
2008.
Je te remercie. Grâce à qui je suis en jeu?
4, 5, 6, 7. Non, t'es pas hors jeu, pardon, excuse-moi.
Non, mais c'est pas grave.
Non. Boston, décidément, je suis désolé, mon pauvre.
Plus cette équipe.
Fred, Stéphane.
Ah, le chinois. Sam Cassell.
C'est bon. Fred. Tac, 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 tac. Ça. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué.
Je vois pas.
Fred éliminé. Sacha.
J'ai un peu peur.
Allez.
Je vais tenter Leon Poe.
Mais il fait. Et
voilà,
oui.
T'es solide, hein, Sacha.
Leon Poe, c'est bon.
Je pense qu'ils avaient un blanc à l'intérieur, là, qui s'est vu un sans talent, là, avec des reflaquettes.
C'est son nom, sans talent?
Non.
Sans talent.
Pollard.
Scott Pollard, c'est bon.
Waouh.
Ah, ça, c'est très fort. Chaud. Il en reste 4. Sacha, égalité entre vous.
Je t'annonce, j'en ai plus. Tu sors un nom, t'as gagné, je te le dis.
C'est vrai?
J'ai envie de tenter Eddie House.
Eddie House,
il est champion avec Miami, je crois, mais pas avec Boston.
Et si, il est là dans la rotation, Eddie House. Gros Sacha.
Réfléchis un peu.
Là, c'est chaud.
Je vais tenter un poste 3 shooter. Un mec qui est relax, qui chill, qui est posé. James Posey.
C'est bon. Oh, quel duel. Oh, quel duel magnifique.
Ah, ça commence à être chaud, là. Tu peux dire le coach, tu veux.
Alors, je sais pas comment faire pour les points, je vais vous donner des demi-points, mais...
Non, tu vas donner à Sacha, quoi. J'expliquerai pourquoi. Sacha qui a gagné. Je réfléchis...
Il y en a deux. Alors, franchement, ils sont introuvables.
Vas-y, donne les prénoms.
Alors, il y en a un qui avait 14 ans d'NBA derrière lui, Louisiana Tech, un poste 4.
Son prénom,
c'est son prénom.
Bah oui, c'est ses initiales, il s'appelle PJ.
P.J. Brown.
P.J. Brown.
P.J. Brown.
Et le, l'autre.
Il n'y avait pas un Arroyo ou un truc comme ça, un joueur
Carlos
un peu perdu?
Non, là, c'était un rookie, Gabe Pruitt.
Ah oui,
Gabe Pruitt.
Il a mal au ventre.
Alors, tu donnes les points à Sacha?
Ouais, c'est Sacha qui a mérité.
Ah, merci.
Sacha qui a mérité.
Ouais, enfin, quand même...
Comme quoi, chier sur l'histoire, ça peut avoir du bon.
Ouais. 2008, c'est vraiment l'histoire.
Mais pour lui, c'est l'histoire déjà 2008.
Écoute, c'était un très bon quiz. Donc 4 points pour Stephen, 5 points pour Sacha, 0 pour Fred et il y a une charade pour 2 points.
Très bien.
Donc soit Fred.
Pour 6 points, ça aurait été sympa que ça Fred peut gagner.
Vous voulez?
Allez, pour 6 points.
Allez. Vous êtes partis, messieurs. C'est pas la Golden, mais presque la Golden de Basket Time pour rendre hommage à Pierrot Dorian qui reviendra la semaine prochaine. Allez, c'est parti, la charade. Mon premier est un synonyme de vachement. Mon deuxième est un point qui culmine. Mon troisième est chanté par Caroline Loeb. Mon quatrième est utilisé par la police pour arrêter les véhicules.
Mon brune radar.
Non. Mon premier est un synonyme de vachement.
Vachement.
Très. Mon deuxième est un point qui culmine.
Trémont Waters,
c'est ici, Stephen.
Le meilleur de Boulogne.
J'allais dire, mon tout fait des passes à Victor Wembanyama.
Ah.
Trémont Waters, drafté en 2019 par les Celtics avec une trentaine de matchs.
C'est la Watt
que je préfère.
Trémont Waters. Ah.
Très vachement, le mont qui culmine, un mont.
Oui. Et une herse.
La Watt, Caroline Loeb, Watt, et la herse qui arrête les véhicules, Waters.
La herse, ah, c'est une escafé aussi, Waters.
On a
Waters.
Deux campagnes de playoffs, Trémont Waters.
Le multiverse.
Bravo pour cette victoire au buzzer de Stephen. Merci Sacha.
Bravo Sacha.
Si jamais elle est blessée, tu seras titularisé.
Très bien.
Merci Stephen, merci Fred et merci à vous puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter dans Basket Time et on en est ravis et fiers. À bientôt pour une nouvelle émission sur l'actualité basket. Ciao ciao.
Bye.
RMC
Basket Time.